There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT
89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city. Proudly student and listener-supported community radio.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pori@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
À l'occasion de ses 35 ans, CUT 89,5 FM sera à 40 degrés à l'ombre cet été. Évadez-vous avec notre édition spéciale en partenariat avec de nombreux partenaires du monde associatif, littéraire et du monde culturel. De la musique, de la poésie, les podcasts du Créfou, de l'humour et des invités surprises. En cette période estivale, Popourri Show vous accompagne. À la ville ou à la campagne, ou même à la plage, du 3 juillet au 28 août, sur CUT 89,5 FM, la radio de votre été, sur www.cut.fm.
Le TGV numéro 8617 et l'idée TGV numéro 2971 en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Brest, départ 14h23, partiront Voici. Ces TGV desserviront Guingamp et Morlaix. Ces TGV comportent chacun un service de restauration et des aménagements pour les personnes handicapées. Il comporte l'idée TGV, voiture 11 à 18, située à l'avant du train. Nous invitons les clients idée TGV à se présenter à l'embarquement situé à l'entrée du quai. Madame, monsieur, nous vous rappelons que pour être valables, les billets que vous avez achetés doivent être compostés avant l'accès au train. La SNCF vous souhaite un agréable voyage.
Dimanche 7 août 2022, Popourri Show en voyage. De retour en studio le 4 septembre prochain. Bonjour et bienvenue à notre édition spéciale de l'été 40 degrés à l'ombre. Cette émission vous provient de nos studios à Paris et en Bretagne. Montage, mixage et mise en onde, DJ Devera. Conception, animation, Eric Adair sur www.cut.fm. Pour télécharger nos émissions, que vous soyez dans le monde, une seule adresse, popourrichaud.com. Et oui, vous êtes très nombreux à avoir réagi à notre édition spéciale Carnaval Caribéen Toronto de dimanche dernier. Merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos idées cadeaux et le voyage pour les Seychelles, la Martinique. Et oui, des surprises vous attendent dès le 4 septembre. Un immense merci à tous nos partenaires, le Créfou et ses podcasts « Quoi de neuf, les cafés du Créfou ». Vous retrouverez tous les liens sur notre site web popourrichaud.com, les éditions Prise de Parole, Ciné Franco, le Centre Maghrébin du Canada et le docteur professeur Eddy Bouraoui, à qui nous disons bien le bonjour. Le festival Compazouk F. Kazo et Janine Maillard, qui a connu un vif succès dans le cadre des événements faisant partie du Festival Caribéen de Toronto. Bravo, chers amis. France Inter, France 24, TV5 Monde et RFI. Et n'oubliez pas l'unique concert de Stromae au Coca-Cola Coliseum, 29 novembre 2022 à Toronto, à ne pas rater. Tournée Multitude, qui connaît un vif succès partout en Europe. Il sera bien sûr en tournée nord-américaine aux États-Unis, Montréal et bien sûr Toronto le 29 novembre. Et bravo aux gagnants des billets de concert. Tous les détails sur popourrichaud.com. Au sommaire de cette édition spéciale Escapade littéraire de l'été, et oui, ça se poursuit, que signifie selon vous exosquelette ?
C'est le titre du dernier livre de poésie de l'auteur et éditrice Chloé La Duchesse aux éditions Mémoires d'Encrier. Prix Trillium 2022, une écriture qui casse un peu les codes littéraires. C'est son deuxième livre. Chloé La Duchesse sera des nôtres vers 12h35 à ne pas manquer. La librairie francophone estivale animée par notre ami Emmanuel Kérade nous emmène à la découverte des cultures du monde, une émission en partenariat avec RFI et France Inter. Il rend hommage à sa façon à Jacob Desvarieux et le groupe Cassave. Et puis nous irons à Montréal à la découverte d'un duo québécois qui connaît un succès incroyable, à classer numéro 1 sur 96.9 CKOI Montréal. Et Roland Smith nous invite à une visite guidée bilingue de la Société d'Histoire de Toronto en deux parties, 7 août et 14 août 2022. Rendez-vous dimanche 7 août à 13h30. Point de rencontre à la fontaine du parc Saint-James au 120 rue King Est, à l'ouest de la rue Jarvis. Centre-ville de Toronto, métro, c'est le métro King. Et une petite marche vers l'est, 5 à 10 minutes environ, par tramway si vous préférez. Nos maires, qui furent-ils? Toronto's mayors, who were they? Et oui, joignez-vous à la Société d'Histoire de Toronto pour en apprendre davantage sur l'histoire de Toronto depuis 1834. Et vos guides seront Frank Nicholson et Roland Smith. Tous les détails sur sht.ca ou encore popourichaud.com. Et oui, si le temps nous le permet, nous ferons un tour d'horizon des buzz de la semaine au sein de la francophonie d'ici et d'ailleurs. Les retombées de la visite du pape François, l'Université de l'Ontario français. Bilan de la conférence mondiale VIH-SIDA qui s'est tenue à Montréal la semaine dernière. Un an après la mort de Jacob Desvarieux, plusieurs adeptes du Zouk sont déçus. Je cite, quels sont les médias qui ont pris du temps pour se souvenir de ce géant de la musique Zouk? Beaucoup pointent du doigt aux médias français et francophones. Eh oui, samedi 30 juillet, Martinique la première a rendu hommage à Jacob Desvarieux, cofondateur du groupe Cassave, décédé le 30 juillet 2021. Un décès qui a laissé un immense vide dans le monde de la musique et du zouk en particulier. Un an après, Cassave n'a pas repris le chemin de la scène. Mais est-ce possible de continuer sans ce pilier? CUTFM, Popourri Show, qui ont eu le bonheur, le privilège d'accueillir Jacob Desvarieux, Cassave, à cette antenne. Nos pensées vont à ce géant de la musique qui laisse un grand vide. Nos pensées vont aussi avec le groupe Cassave. Un an après, Popourri Show, n'oublie pas, Jacob Desvarieux.
Mesdemoiselles, messieurs, ne me lâchez pas. En position, tout le monde, en position, en position, en position, en position. Et ça va, beau. Attention. On nous allait. Voyons maintenant. On nous allait. C'est ça. On nous allait.
Parce que tu nous parles. Et j'allais pour nous parler parce que tu nous parles. Sous-titrage Société Radio-Canada. parce qu'il faut nous parler. Musique et l'amour, c'est ça, tout ça, l'un qui fait peur.
Ça va bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et vous l'avez appris au début, et pour que ce soit bon à nouveau, je vous demande de vous mettre en position, tout le monde en position, en position, en position. Ah, ça c'est pas ça. Hey, on nous va aller. Ah, c'est ça. Vous voyez monter, hein? Hey, on nous va aller encore. On nous va aller encore. Vous voyez monter. Attention, vous voyez monter. Attention, mesdames, mesdames, messieurs. Oh. Commencez, sortez, 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 montez, couillez, 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 show.
Que j'ai porté maillot, jamais que j'ai porté maillot, Antillais qui a porté maillot, Wiggy dip, porté maillot, porté maillot, porté maillot. Résigné, j'ai porté Bayou. Américain, j'ai porté Bayou. Antillais, j'ai porté Bayou. Wiggy dip, porté Bayou. 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 Porté Bayou.
La playlist de l'été. Et oui, l'auteur, compositeur, interprète David Jalbert est le chansonnier, chanteur du groupe Lendemain de la veille, Marc-André Rioux, s'unissant l'an 2000 pour former Trois Balles de Prise, un tout nouveau projet musical issu de la pandémie. Trois Balles de Prise est une formation punk rock à caractère engagé et teinté de nostalgie, inspiré par plusieurs groupes ayant bercé leur adolescence au Québec. Voici la chanson Montréal, un titre qui connaît un vrai succès sur C'est quoi FM à Montréal. Montréal de Trois Balles de Prise. La playlist de l'été sur CUT 89,5 FM, Toronto.
Je me suis taillé une place dans une meute de loups.
France 24 vous propose Les Observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Des photos, des vidéos, des témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifié par les journalistes de France 24 et publié sur notre site. Les Observateurs, c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les Observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde. Les Observateurs, ce sont eux, c'est lui, c'est elle, et pourquoi pas vous? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux quatre coins du monde.
Cette année, Ciné Franco célèbre ses 25 ans. Le cinéma francophone local, national, international et ses artisans sont au cœur de nombreuses activités menées au long de l'année par Ciné Franco. Parmi les rendez-vous les plus populaires, le Festival Grand Public, le plus important festival de films francophones du Canada anglophone. Il se compose d'une quarantaine de films provenant de divers pays, tels que la France, la Belgique, la Suisse, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, et rassemble chaque année des milliers de passionnés. Le programme Jeunesse, exclusivement dédié aux élèves et à leurs enseignants. La fête du cinéma québécois contemporain grâce au partenariat avec la tournée Québec Cinéma. Et je vous rappelle que tous les films sont sous-titrés. Une occasion exceptionnelle pour se familiariser à la langue française et les cultures francophones. Ciné Franco entretient une étroite collaboration avec les acteurs locaux de la francophonie. Il est également très présent sur les médias sociaux, particulièrement sur Facebook et Twitter, pour permettre à tous ses fans de rester en lien avec l'actualité cinématographique francophone. Ciné Franco, 25 ans, ça se fête tout au long de l'année en ligne et en salle. Restez branchés à CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Ciné Franco est le plus important festival international de films francophones du Canada, fondé en 1997 par Marcel Lynn et devenu l'organisme phare du 7e art qui relie un modèle de pratique artistique au sein de la francophonie. Pour tout renseignement sur Ciné Franco, consultez le site web au cinéfranco.com ou par courriel info@cinéfranco.com. Popourri Show, CUT 89,5 FM, 35 ans déjà. Ciné Franco, 25 ans pour l'amour du cinéma.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Mais oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie Franco, 15 ans déjà, ça se fête. De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franco en cliquant sur sophiefranco.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franco vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranco.org. Sophie Franco, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franco.
Quoi de neuf? Les Cafés du Créfaux. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à l'État du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à l'Écafé du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant. CIUTFM, la première radio de Toronto. Élu par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité. Popourri Show et CUTFM fêtent leur 35e anniversaire. Popourri Show, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et en surprises.
Est-ce qu'on est né comme ça, de la dynamite dans les tripes, à vouloir passer à travers les murs, bulldozer ou fantôme? Est-ce qu'elle était préméditée, l'explosion qui te rend visible, qui me tait? Exosquelette, c'est mon deuxième recueil de poésie paru chez Mémoire d'Encrier. J'explore les histoires qui me sont arrivées ou des réflexions que j'ai eues. Moi, je vois la poésie comme une forme de réponse. C'est comme une espèce d'entrée dans mon univers que j'espère assez accueillant pour que d'autres s'y retrouvent.
Eh oui, mesdames, messieurs, là nous sommes à la Procope, le plus vieux café de Paris. Et juste avant, nous avons entendu la voix de notre invité de ce dimanche, Chloé Laduchesse, qui a reçu le prix Trillium 2022 pour son recueil de poésie Exosquelette. Exosquelette est son deuxième recueil de poésie paru aux éditions Mémoires d'Encrier. Et vous serez heureux de retrouver la plume de la poétesse qui nous avait précédemment offert le recueil Furie en 2017. En plus de ses nombreuses publications au sein de revues littéraires. Dans Exosquelette, l'auteur observe le monde qui l'entoure et nous en offre la réflexion, là où l'amitié foule l'immensité de son temps, la nature en tableau de bord, l'amour, la rage, la lutte, l'explosion sont partie intègre d'une poésie qui se lit avec affection. Chloé Laduchesse, à nos micros, vers 12h35, à ne pas manquer. Et dimanche prochain, malgré notre absence, je vous invite à célébrer la fête nationale de l'Acadie, qui a lieu le 15 août de chaque année depuis 1881. Plusieurs surprises au rendez-vous. Et maintenant, je vous invite à la librairie francophone estivale avec Emmanuel Quérade sur France Inter. Popourri Show est en Europe afin de renforcer ses partenariats avec ses médias partenaires. Je vous retrouve le 11 septembre dans nos studios à Toronto. Place à Emmanuel Quérade.
France Inter,
RFI, Radio France Internationale,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, merci pour votre fidélité et bienvenue dans la librairie francophone estivale et dans ce grand voyage à travers les cultures du monde. Confidences, reportages, clubs francophones et rencontres, voici le sommaire de cette édition. Aujourd'hui, dans le club francophone, nous serons dans les écuries de Bartabas pour une rencontre exclusive avec l'artiste plasticien Ernest Pignon-Ernest. Vous entendrez un reportage dans une forêt du Québec, sur une île, avec Christian Guépoliquin. Notre voyage estival vous emmènera à Los Angeles avec Philippe Besson et vous entendrez aussi Oumou Sangaré, star de la musique africaine, et Anthony Delon dans l'entretien de la semaine. Le tout dans une ambiance très musicale. Installez-vous, le voyage commence.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérade.
Et on démarre cette émission avec La Confidence. Cet été, 9 personnalités vous racontent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Si vous en avez manqué, ou si vous avez manqué aussi des émissions, vous pouvez les écouter, les retrouver en podcast balado-diffusion sur notre site internet. Et on part dans une forêt du Québec, sur une île entre le lac des montagnes et la rivière des prairies, avec l'écrivain Christian Guépoliquin, prix France-Québec et prix du gouverneur général. Et oui, parce que là, on a un chemin qui est envahi par les eaux. On n'a pas d'autre chemin ? On va essayer de passer par là.
Top sur en fait. Faut pas laisser les pieds trop longtemps.
Non, faut pas laisser les pieds trop longtemps, non. Je suis carrément dans l'eau, quoi. J'ai les chaussures pleines d'eau. Magnifique. Non, c'est formidable. J'ai les pieds pleins d'eau. Allez, nickel. Ok, 1, 2, 1, 2, c'est parti. Et bonjour Christian Guépoliquin.
Bonjour Emmanuel.
Nous sommes dans la forêt de l'île Bizarre, ici au Québec, juste à côté de Montréal, avec un endroit sublime en pleine nature.
Absolument, on s'aventurait dans les grands marécages de l'île Bizarre sur des passerelles qui sillonnent les eaux vaseuses, mais remplies de vie du parc de l'île Bizarre.
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau, c'est pour ça que vous entendez l'eau sous nos pas. On a des flaques, hein, donc on essaye de slalomer, mais il y a beaucoup d'eau autour de nous. Et il y a surtout une nature flamboyante.
Absolument. On se rend compte que dans les saisons comme ça, que la vie dans les marécages, elle est à toute dimension et à toute échelle. Elle est sous nous dans l'eau, elle est dans les joncs et dans les arbres au-dessus de nous.
Alors là, face à nous, on est un peu coincé parce que, je vais vous dire la vérité, on a un chemin et puis on a une grande étendue d'eau et je pense qu'on va pas pouvoir passer.
Hein? Je vais aller voir.
Ouais, allez. On est passé, c'est bon. Bon, je me mets pieds nus du coup, hein. Je suis trempé. Bon, alors vous avez écrit un gros roman nommé Les Ombres Filantes, paru aux éditions La Peuplade. C'est un livre qui se déroule en pleine forêt justement. La forêt comme un refuge, un labyrinthe aussi. Votre narrateur se retrouve pieds nus, pour le coup, en pleine nature. Il lutte contre les éléments, la chaleur de l'été, les animaux, la violence des hommes aussi. Que s'est-il passé ?
Ben, tout simplement, une panne d'électricité généralisée qui dure depuis, on ne sait trop, un an et des poussières. Et donc, mon narrateur, comme plusieurs, il décide d'avoir recours aux forêts, d'aller en forêt d'abord pour retrouver sa famille qui s'est réfugiée bien avant lui. Et donc, lui cherche ses repères, il cherche, dans le fond, qu'est-ce qui donne encore du sens, qu'est-ce qui peut encore donner du sens à sa vie dans ce contexte-là nouveau. Et donc, en s'aventurant dans la forêt, bien, il se rend compte de deux choses. C'est que la forêt est toujours la forêt, avec son lot de défis, de mystères, de craintes, de fascinations, mais aussi une forêt qui est habité, qui est étrangement peuplé par plein de gens comme lui qui tentent de se refaire une vie.
Et les marécages autour de nous toujours, et puis de gros gravillons qui sont sur ce chemin-là, et puis les plantes qui surgissent de ces eaux tout autour dans cette forêt ici sur l'île Bizarre. Vous imaginez un monde qui bascule, Christian, suite à une grande panne d'électricité. Sans cette énergie, tout change.
Absolument. En fait, ce que je voulais inventer, c'était un détail tout simple qui faisait un décalage majeur avec le présent, sans cependant tomber dans les grands clichés post-apocalyptiques que nous connaissons bien. Dans le fond, cette fin du monde-là implique indéniablement une continuité.
On est à la croisée des chemins, comme on dit, avec deux bancs verts pour pouvoir s'installer, puis un gros panneau orange fluo, secteur fermé. Donc, on va plutôt passer vers la droite. Et on a des petits panneaux qui nous indiquent des grenouilles, évidemment, dans les marécages, et puis des lapins. Peut-être qu'on va en croiser en marchant avec Christian Guépoliquin. Alors, il y a des clans, des coins reculés aussi dans ce livre. On survit comme on peut, on change de vie car le monde n'est plus le même. Et on vit en clan.
Exactement. C'est un peu une sorte de d'une anticipation qui fait office d'un retour en arrière, comme ça arrive souvent lorsque la société s'effrite suite à la panne d'électricité. On revient, comme vous venez de le dire, au clan. On revient à la solidarité communautaire traditionnelle. On revient à la famille, aux repères les plus fondamentaux d'une vie sociale.
Alors, votre narrateur va rencontrer Olio, un gamin de 12 ans, qui est tout seul dans cette forêt. Il se trouve au bon moment, ces deux-là.
Absolument. Où les deux sont à peu près perdus. Et dans cette rencontre-là, moi, j'aime bien essayer d'opérer divers renversements, dans la mesure où Olio, c'est un jeune homme perdu en forêt, mais qui n'est pas en situation, qui n'a pas particulièrement besoin d'aide parce qu'il est extrêmement débrouillard, il est vif, il est habile, il sait chasser, hein, il sait se nourrir. Alors que le personnage, lui, vient de s'égarer un peu en poursuivant une perdrix pour se nourrir et qui a laissé son sac. Et donc, finalement, c'est le jeune qui, au départ, donne un coup de pouce.
Et oui, c'est ça.
À celui qui
s'est adapté, en fait. Le gamin s'adapte beaucoup plus facilement que l'adulte dans la nature, comme ça, livré à lui-même.
Tout à fait, peut-être parce qu'il est plus, qu'il est forcément dans le moment présent et donc qu'il est moins embarrassé par tout un lot de questions du sens des choses et de pourquoi et de lendemain d'hier. Et donc, cet enfant-là, en étant entièrement dans le moment présent, décide de faire aussi équipe avec ce personnage-là qui est garant d'un certain avenir en disant « Viens, on va dans ma famille ».
C'est ça.
Ben, ils vont faire une équipe ou un duo improbable qui vont se compléter, vont s'amener chacun dans des zones où ils ne seraient pas allés seuls.
Allez, on passe sur un pont de bois magnifique, très long. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va parce qu'il y a des petits virages. Et on a cette perspective incroyable avec un pont de bois qui traverse la forêt. On est au milieu de la forêt, au milieu des arbres. Là, on ne peut pas être plus en pleine nature. Il n'y a personne autour de nous en plus, Christian.
Non, c'est ce qui est inquiétant.
Votre roman est divisé en trois parties. La forêt, donc, la famille et le ciel. La forêt, c'est la nature qui perdure, quoi qu'il arrive, pour les humains. La famille, c'est le lien fondamental pour chacun, mais aussi parfois, effectivement, une entrave compliquée. Et le ciel, alors, qu'est-ce que c'est ?
Le ciel, c'est l'absolu, l'au-delà des repères habituels. Tout itinéraire n'aboutit jamais réellement parce qu'une fois qu'on arrive quelque part où on se pense en sécurité, où on se pense arrivé, où on se pense à sa place, eh bien, la vie ou les désirs changent tranquillement et donc nous amènent ailleurs. Et donc, la troisième partie, le ciel, c'est le bout où on quitte les repères connus pour aller vers un ailleurs totalement inédit. Ils ne savent pas où ils vont, mais ils savent ce qu'ils quittent.
L'homme ne change pas. Même en cas de danger ultime, il reste avec ses réflexes égoïstes, violents, etc.
Et des gestes d'altruistes aussi, des gestes d'altruistes forts, des gestes de générosité et d'ouverture. Et donc, les deux continuent d'exister dans une situation, je dirais, de tension à différentes échelles, mais les deux sont plus nécessairement visibles lorsqu'il y a don. Ce don-là est vécu comme un don du ciel, comme quelque chose d'absolument magique. Une situation exceptionnelle exacerbe la signification de chacun de nos gestes.
Oui, c'est ça.
Et donc, leur donne plus d'ampleur et donc peut-être nous invite peut-être à les revisiter davantage, nos gestes, ou à les questionner davantage dans comment qu'ils s'ancrent dans le monde et par rapport aux autres.
La nature reprend ses droits. Et c'est vrai que quand on regarde de près, comme on a là autour de nous, quand on regarde de près une forêt, même si on fait un sentier, même si on fait un pont de bois, la forêt, elle reprend ses droits à un moment et ça pousse partout.
Absolument, hein? On dit que la nature a horreur du vide et c'est pas pour rien. Et moi, j'ai un souvenir des forêts de l'Ouest canadien où c'est les grands arbres, une fois tombés, certains arbres vont déjà prendre racine avant même que les arbres tombés soient entièrement décomposés. Donc, c'est pas juste des branches qui repoussent, c'est d'autres arbres qui vont s'enraciner directement dans le corps mort avant même qu'il soit retourné en humus. Et donc, il y a quelque chose là au niveau de l'image, des symboles qui est extrêmement vivifiant dans ce rapport-là et cette proximité-là entre vie et mort dans la forêt.
C'est un roman sur la survie, Christian Guépoliquin. Il existe des stages de survie en pleine nature. Ça a beaucoup de succès d'ailleurs chez les jeunes. Vous sauriez survivre, vous, ici en pleine nature si je vous laissais là une semaine?
Ah, une petite semaine peut-être. Après ça, faut voir, puis ça dépend avec quoi vous me laissez là, hein. Si vous me laissez là nuit comme un heure, peut-être moins longtemps, tout dépendamment de plein de choses. Cependant, c'est sur quoi je vais insister dans ce roman-là, c'est un rapport à une survie sociale. La survie, hein, au-delà de la survie du corps, c'est la survie d'un groupe, où je reviens à l'idée de clan. C'est une survie relationnelle. C'est d'aller vers les autres, pour créer une relation, pour créer, et donc donner du sens à toute survie ou à toute situation aussi difficile.
Ouais, difficile. Ah, on entend des oiseaux là, juste derrière nous, pas très loin d'ici. On a quitté la densité de la forêt pour se retrouver une nouvelle fois au milieu des marécages. Et on va s'arrêter là, puisque je vais enlever mes chaussures et me mettre sec. Merci beaucoup, Christian Guépoliquin.
Merci.
Les ombres filantes, votre roman est paru aux éditions La Peuplade. Merci, Christian.
Salut bien.
La librairie francophone estivale.
Et le dernier ouvrage de Philippe Besson, Paris-Briançon, ça se passe dans un train, c'est un très bon roman et il est paru chez Julliard. On termine cette émission avec le bonus créole. Le bonus créole de Jocelyne Berroir et un hommage à Jacob Desvarieux, Jocelyne.
Jacob, évidemment. Ah, l'année prochaine, on est censé lui rendre un hommage. Jacob va manquer à tout le monde sur scène, d'abord parce qu'il avait... Il avait une présence réelle, physique, déjà, et puis il avait une voix particulière. Et puis, avec nous, je crois qu'on avait du respect, déjà, entre nous, en général, mais envers lui, je crois que c'était quadruplé. Pourquoi? Parce que il ne changeait jamais, et on savait comment il allait penser, il ne bifurquait pas, il était égal à lui-même, il avait un humour extraordinaire. Une certaine finesse, quoi, et puis intelligent, quoi, tout simplement. Donc c'était quelqu'un avec lequel on avait plaisir à être. Moi, je me battais, je me chamaillais tout le temps avec lui, parce qu'on n'était pas d'accord quand il s'agissait de hommes et femmes. C'est ça, dès qu'on parlait. Quand on arrivait sur ce terrain-là, c'était difficile. Mais en général, on s'entendait très bien.
Un peu comme frère et sœur, tous les deux.
Voilà, c'est exactement ça.
Moi, à chaque fois que je vous ai vu, c'était ça.
C'était ça.
L'un boudait dans son coin, l'autre revenait, enfin, voilà, tout le temps.
C'est ça. Frères et sœurs. Complètement.
Dans votre livre, vous parlez de sa voix si spéciale, qui, comme le dit Patrick Chamoiseau, je cite, a gardé de nos rivières cette usure de rocaille et cette plainte végétale. C'est vrai que c'est exactement ça.
C'est vrai. Quand on tournait, par exemple, en Afrique, qui démarrait, il y avait d'abord toutes les chansons de démarrage, il y avait son titre Oulé, quand il commençait, la salle hurlait. Ouais. Voilà, c'était Jacob.
Et vous citez
on savait que le public était acquis.
Vous citez une chanson d'ailleurs, dans laquelle il dit « Et même si je meurs, je garderai les yeux ouverts afin de te voir encore depuis l'autre bord. »
Voilà, c'est au moins.
On va écouter ce titre.
D'accord.
Merci Jocelyne Berroir. Merci. On pense à Jacob Desvarieux très fort. À bientôt.
À bientôt.
Aïe, maman, manque à moi, j'y mets un bout de cœur, mais c'est clair, l'ennui de soleil, y'a les, c'est où m'aimé, si la cause est arrivée un jour, un million s'accoulait. Même si on mord, je les ai ouverts. Pour moi, t'es mort, depuis l'autre côté là. Bon Dieu t'es blé, oh, dès que les crayons qu'on avait poussière, l'eau et puis vent, ou des étoiles, tu posais divine. Puis à mon mec, vous pouviez.
La fin de cette édition, je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction, Jean-Philippe Verret de France Inter avec Émilie Pasquier et les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. David Leprince avec Anne-Laure Cochet à la réalisation. La semaine prochaine, émission spéciale à La Réunion avec plein d'invités et de reportages. Un moment à ne pas manquer qui va vous faire voyager où que vous soyez dans le monde, en vacances ou pas, on sera là pour vous dépayser. Merci d'avoir écouté la Librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.
Écoutez la planète chanter.
Appelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voyage.
Adraben la cosa, ding-e-dum.
Non, ding-e-dum.
Écoutez la planète chanter.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Et oui, le moment tant attendu de la part de tant de fans au Canada et au Québec a bientôt une réalité. Stromae, de retour au Québec à l'automne 2022. Depuis le lancement de son troisième album Multitude au mois de mars, l'artiste belge d'un père tué lors du génocide de Rwanda présentera deux spectacles au Centre Bell de Montréal les 25 et 26 novembre et le 11 décembre au Centre Vidéotron Montréal. Tirage au sort de deux paires de billets de concert et billets de train via rail et hôtel pour les gagnants. Allez, inscrivez-vous à nos infolettres et courez la chance de gagner des billets des prochains concerts de Stromae. Et afin de rester à l'affût et ne rien manquer des nouvelles annonces de nos partenaires, programmation, festival, des nouveaux concours exclusifs, inscrivez-vous immédiatement à notre infolettre popourri@cut.fm. Stromae, meilleur artiste belge de la planète, gagnant de plusieurs prix. Et il est passé chez nous à plusieurs reprises. Il nous revient après un long silence. Allez, participez en grand nombre. Concours Stromae. Bonne chance.
C'est l'histoire de Luc qui, arrivé à la piscine, s'aperçoit qu'il n'a pas son maillot de bain et ses lunettes de natation.
De Clara, qui n'a pas eu le temps d'acheter son bonnet de bain.
Ou encore de Nathalie, qui a oublié les brassards et les couches bébé nageurs de son fils.
Mais tout cela, c'était avant l'arrivée des distributeurs automatiques de natation Swind.
Top Sec Équipement propose un concept exclusif. Swind, le distributeur automatique d'articles de natation de qualité à prix très attractif. Disponible dans toutes les piscines de France.
Youhou ! Info sur la page Facebook Top Sec Équipement.
Le mois du créole de Montréal, organisme partenaire de Popourri Show, vous convie à la 21e édition du mois du créole en octobre. Participez, faites-vous connaître, inscrivez votre activité culturelle dans le programme officiel du mois du créole en visitant moisducreole.info. Tout au long du mois d'octobre, Popourri Show CUTFM en partenariat avec le mois du créole à Montréal célèbre le patrimoine culturel créole. Pour nous joindre, popourri@cut.fm ou visitez moisducreole.info. Popourri Show 35 ans, fier partenaire des festivités du mois du créole au Canada. Allez, bonjour tout le monde. We'll be right back. Et maintenant, madame, monsieur, j'ai le plaisir de vous présenter rapidement l'une des chansons de la playlist de l'été de France Inter, nommée à la 37e cérémonie des victoires de la musique, l'odeur de l'essence du rappeur français Orelsan. Rappeur un peu controversé, il faut bien le dire. Eh ben, Orelsan a tout pour être sacré chanson originale de 2022. Le 17 novembre 2021, 3 ans jour pour jour après le début du mouvement des Gilets jaunes, Orelsan sort l'odeur de l'essence, dans laquelle il déclame « Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué, ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée ». L'odeur de l'essence de Orelsan, de l'album Civilisation en exclusivité sur CUT 89,5 FM, Toronto.
Ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal, quelque part le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse tout le monde, je veux faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, c'est un des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard pipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols, pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols. Comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet. Mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne n'avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler. Sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on sent sur les artistes. Rien n'avance jamais, nombreux se radicalisent. En manque de repères, ils se perdent dans la nostalgie. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où...
putain. Les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent au flip de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. Sait pas gérer nos relations, donc on les gâche. Assume pas ce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash de l'essence. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réact, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal, quelque part le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse tout le monde, je veux faire le petit train. Une discussion sourde, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard pipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet. Mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien avant jamais, nombreux se radicalisent. En manque de repères, ils se perdent dans la nostalgie. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent au flip de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. C'est pas gérer nos relations, donc on les gâche. Assume pas ce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Découvrez Radio Player France. Radio Player, c'est une nouvelle façon de penser, de consommer et d'aimer la radio. C'est une application qui réunit le meilleur des radios françaises, des web radios et des podcasts. C'est un projet commun réunissant les 6 principaux groupes de radios françaises. Altis Media, Lagardère News, les Indes Radios, les radios du groupe M6, Énergie Group et Radio France. Mais c'est surtout une ouverture pour tous, avec un contenu énorme, complet et entièrement gratuit. Avec des offres localisées et un modèle prédictif basé sur l'écoute des auditeurs. C'est pour tous les usages, partout et à tout moment.
c'est sur tous les supports. Smartphone, ordinateur, enceinte connectée et assistants vocaux, Smart TV et voiture. Avec en plus une qualité de son inégalée. Radio Player France, l'appli de toutes les radios, gratuite et accessible à tous.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Potpourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Kader, je vous invite à Potpourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions prises de parole, Educ Nation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Potpourri Show en nous envoyant un message à potpourri@cut.fm ou visitez notre site web potpourrishow.com. Potpourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
France 24 est la première présente. Découvrez votre nouveau magazine d'information consacré aux territoires et départements d'outre-mer. France 24 est la première s'associe pour vous présenter des reportages inédits au cœur de la population et des sociétés ultramarines. Décryptage de toute l'actualité marquante de la semaine, analyse et partage de connaissances. Partez à la découverte des richesses des territoires d'outre-mer sur France 24 et France24.com.
À l'occasion de ses 35 ans, CUT 89,5 FM sera à 40 degrés à l'ombre cet été. Évadez-vous avec notre édition spéciale en partenariat avec de nombreux partenaires du monde associatif, littéraire et du monde culturel. De la musique, de la poésie, les podcasts du CREFO, de l'humour et des invités surprises. En cette période estivale, Potpourri Show vous accompagne. À la ville ou à la campagne, ou même à la plage, du 3 juillet au 28 août, sur CUT 89,5 FM, la radio de votre été, sur www.cut.fm. Les buzz de la semaine. Le voyage historique du pape François continue à susciter débats et questions. L'utilisation du terme génocide par le pape pour décrire les horreurs vécues par les communautés autochtones à l'époque à des pensionnats est un autre pas vers la réconciliation, estiment des experts. Pour plusieurs professeurs et amis des premiers peuples, les excuses du pape seront mieux accueillies si elles s'accompagnent d'un règlement des actions collectives. Et le pape diminué admet qu'il ne pourra plus voyager au même rythme. Il laisse présager, entrevoir, une possible retraite. Au Québec, vif débat autour d'un programme d'anglais à Lévis. Des jeunes de la 6e année privés du cours intensif. Les parents frustrés portent plainte. VIH-SIDA, 9500 spécialistes du VIH-SIDA de partout dans le monde et 3000 personnes ont assisté virtuellement à la 24e conférence internationale sur le SIDA à Montréal. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a dénombré 1,5 million de nouvelles infections dans le monde, soit 4000 par jour. Un quatrième patient guéri grâce à une greffe de moelle osseuse. Est-ce une piste de traitement pour de futurs patients VIH-SIDA? Tous les experts sont clairs, le dépistage régulier est la clé. Dossier de l'éducation, les universités francophones veulent créer un réseau similaire à l'Université du Québec à Toronto, Sudbury et Hearst. Inspiré par l'Université du Québec qui, en 1969, a étendu de façon importante l'accès à l'enseignement universitaire aux Québécois, les établissements francophones imaginent un réseau d'éducation universitaire entièrement par et pour les franco-ontariens. Pour Pierre Ouellette, recteur de l'Université de l'Ontario français, je cite, « Le danger de ne pas offrir des programmes de base dans toutes les universités, c'est que les étudiants vont partir et étudier en anglais. On a besoin d'élargir l'offre de programmes dans toutes les universités francophones et ensuite offrir des programmes plus spécialisés de deuxième et troisième cycle conjointement avec d'autres universités du RUFO. » Avalanche de réactions à la suite du décès de Gisèle Lalonde. La communauté franco-ontarienne et les francophones du pays sont en deuil. Madame Lalonde était une militante dévouée qui a consacré sa vie à la promotion et à la défense de la francophonie, notamment à travers la lutte pour sauver l'hôpital Montfort. Les Marocains de Toronto ont célébré la fête du trône le 30 juillet dernier. Le Maroc et le Canada soulignent 60 ans de relations diplomatiques cette année. En France, à l'émission Drag Race, France connaît un véritable succès. Le concours de la meilleure drag queen, copié à la célèbre version américaine, témoigne de la présence de plus en plus importante de la culture drag au-delà des milieux queer et LGBT. En Algérie, El Watan, premier journal algérien, s'achemine vers la fermeture définitive, selon son directeur de publication. La raison ? Blocage des comptes bancaires de l'entreprise depuis le mois de mars dernier en raison d'un contentieux l'opposant à l'administration fiscale. Être gay relève tout un défi dans plusieurs pays arabes. Le nouveau film Thor interdit dans certains pays en raison de personnages homosexuels. Thor, Love and Thunder, Amour et Tonnerre. La super production de Marvel a foudroyé le box-office nord-américain, mais comme d'autres méga-productions américaines récentes, elle a suscité le malaise, voire la censure dans certains pays en raison de ses références LGBTQ. En Tunisie, une personne sur cinq veut quitter le pays selon une enquête nationale. Dans une tribune, la militante des droits humains, Edith Lomel, s'inquiète d'une brutale fermeture de la parenthèse démocratique au lendemain du référendum sur la nouvelle constitution en Tunisie. Affaire des biens mal acquis, gabonais, cinq nouveaux enfants d'Omar Bongo, mis en examen en France. À l'île Maurice, après le scandale concernant l'affaire d'espionnage de l'Inde et les contradictions du gouvernement, les membres de l'opposition invitent la population à une grande manifestation le 12 août prochain. Dans un instant, le journal d'Haïti et des Amériques. Toute l'équipe de la radio vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table. Merci de votre fidélité. Place à RFI.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causé Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Il est 13h10 en temps universel, 15h10 dans nos studios à Paris. Voici le journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Michael Ponge. Bonjour.
Bonjour Raphaël, merci. Il est 9h10 à Port-au-Prince. Haïti, pays à même de recevoir les migrants haïtiens refoulés des États-Unis. Vous allez entendre à ce sujet la réponse de Washington au micro de RFI. On retrouvera aussi, comme chaque jeudi, bien sûr, notre confrère Franz Duval à Port-au-Prince. Et puis l'Ouest américain en proie à une méga sécheresse, ça c'est notre dossier du jour. Et puis, dans une quinzaine de minutes, la fin de la campagne sucrière à Marie-Garland. Ce sera à la une du journal de la première avec vous, Benoît Ferrand.
Oui, une campagne sucrière 2022 décevante, 56 000 tonnes prévues, 43 000 tonnes de canne seulement livrées à l'usine.
À tout à l'heure Benoît et bienvenue à tous. Il avait promis une rupture, une politique plus humaine en la matière. Un an et demi après son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden n'a guère fait évoluer sa réponse face aux flux migratoires par rapport à l'ère Trump. Malgré la situation sécuritaire en Haïti, son administration continue ainsi de renvoyer chez eux les Haïtiens arrivés clandestinement sur le sol américain. À l'occasion de son passage à Paris en ce moment même, nous avons profité de la présence d'Alejandro Mayorkas, le secrétaire à la sécurité intérieure, pour lui demander si les États-Unis considéraient Haïti comme pays suffisamment sûr pour renvoyer des dizaines de milliers de citoyens. Écoutez sa réponse.
Ce sujet suscite de vifs débats aux États-Unis. Nous avons étudié la situation du pays pour déterminer si elle justifiait l'octroi de ce que nous appelons le statut de protection temporaire, le TPS. Nous avons étudié la situation et, par exemple, décidé que le TPS était justifié. Et nous l'avons prolongé lorsque le président a été assassiné. Mais à l'heure actuelle, nous pensons que la situation du pays ne justifie pas une prolongation ou une nouvelle désignation du statut de protection temporaire, et nous renvoyons donc ces personnes en Haïti. Nous sommes conscients de la violence sur place, des gangs, et c'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de renvoyer les Haïtiens, mais aussi d'une collaboration avec l'USAID et le département d'État pour investir dans le pays. Et puis nous voulons aussi construire des voies sûres pour que les Haïtiens puissent venir aux États-Unis. Lors du sommet des Amériques, il y a quelques semaines, nous avons parlé de notre engagement à étendre le programme de regroupement familial haïtien comme l'une des voies possibles. To expand the Haitian Family
Reunification Program as one avenue. Alejandro Mayorkas, interrogé par Stéphanie Schuller. Les États-Unis, dont les émissaires dépêchés en Haïti depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, ont tous échoué à convaincre les protagonistes de la crise à trouver un accord politique. C'est ce qu'écrit aujourd'hui dans ses colonnes Le Nouvelliste. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef du quotidien en ligne avec nous de Port-au-Prince. Franz, c'est dans ce contexte qu'une élue américaine d'origine haïtienne tente de son côté de convaincre de la nécessité de trouver un consensus politique.
Tout à fait. Sheila Sherfilus McCormick, élu démocrate en Floride, essaie de parler aux responsables haïtiens, essaie de les encourager à trouver une entente. Elle a fait ça par Zoom, elle a essayé de parler à tous les secteurs, à des membres de la société civile, au gouvernement, aux représentants de l'accord dit de Montana, mais pour le moment, il n'y a pas encore de retombée de cette rencontre virtuelle. Mais il faut dire qu'elle est une jeune élue, c'est son premier mandat, qu'elle n'est pas connue à Port-au-Prince, qu'elle ne s'est pas déplacée, et que pour le moment, on doute fort que cela va déboucher sur quelque chose.
Et puis vous l'écrivez aussi d'ailleurs, Franz, dans votre éditorial aujourd'hui. L'immobilisme, et c'est un problème, est le credo des politiques haïtiens de quelque bord qu'ils soient.
Tout à fait. Et dans moins d'un mois, le Premier ministre Ariel Henry aura un an au pouvoir. Il n'y a pas eu de décision majeure de sa part, il n'y a pas eu d'initiative. Bien entendu, il n'a pas poursuivi avec le référendum constitutionnel pour changer la constitution comme le souhaitait le président Moïse, mais c'était déjà un projet mort-né du temps du président Moïse. Et hier, il a décidé de ne pas publier le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure civile comme c'était prévu depuis 2 ans. Pour ainsi dire, c'est plutôt 2 inactions que des actions. Et pour le moment, c'est la même chose dans l'opposition, ou du moins dans ce qui est l'opposition en Haïti, parce qu'en réalité, il n'y a pas personne vraiment qui s'oppose ni qui pousse le gouvernement à faire mieux. Pour le moment, et l'opposition et le gouvernement se disent, ne rien faire, c'est déjà trop faire.
Le gouvernement français interpellé par les magistrats du pays au sujet de la situation au palais de justice de Port-au-Prince, la plus grande juridiction du pays qui est aux mains des gangs depuis maintenant plus de 10 jours.
Aucune initiative n'a été prise par les forces de sécurité pour essayer de récupérer le bâtiment. Mais là, l'Association nationale des magistrats haïtiens pointe du doigt le gouvernement, fait même de très graves accusations, explique que ce qu'on voit, c'est encore pire que ce qu'on craint. C'est pas seulement des bandits qui ont pris le bâtiment, mais c'est de hautes autorités qui sont en train de faire partir en fumée des preuves, des éléments de dossier et peut-être des choses compromettantes pour elles. Et les autorités au plus haut niveau sont pointées du doigt par les magistrats haïtiens. Mais il faut dire que ça fait des années que la justice et la politique en Haïti ne font pas bon ménage et qu'à chaque fois, il y a des accusations dans un sens ou dans l'autre. Mais cette fois, le palais de justice a été investi par des bandits et les autorités politiques et policières n'ont pas donné l'ordre d'essayer de récupérer le bâtiment. C'est une situation très grave qui se déroule pendant que déjà la majorité des corps du système judiciaire étaient soit en grève, soit en total dysfonctionnement.
Et tout ça est donc à lire dans l'édition du Nouvelliste de ce jeudi. Franz Duval avec nous de Port-au-Prince. Merci.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Mickaël.
La campagne sucrière 2022 s'est achevée hier sur l'île de Marie-Galante. Campagne décevante, Benoît.
Oui, la sécheresse a sévi. Là aussi, conclusion, une prévision de récolte de 56 000 tonnes de canne et au final 43 000 seulement livrées à l'usine. Une usine qui a d'ailleurs tourné, elle aussi, au ralenti. Josiane Champion.
42 642 tonnes de canne broyées par la sucrerie. Jamais Marie-Galante n'aura connu une récolte aussi maigre, hormis les 29 000 tonnes de l'an dernier rescapées après la fermeture de l'usine. Vu le faible tonnage, la récolte aurait dû se terminer en mai, mais l'état des parcelles a compliqué la coupe et la faible densité des cannes a ralenti le remplissage des chariots. La réalité, c'est que cette cadence a collé au rythme de la sucrerie qui n'aurait pas pu absorber plus, car la chaudière remise à neuf a été mal réglée au départ, ce qui a entraîné de nombreux petits arrêts intempestifs et une capacité de broyage réduite à moins de 700 tonnes jour au lieu des 1200 escomptés. Il y aura des travaux d'ajustement pendant l'intercampagne. La direction de la SRMG estime toutefois avoir tenu son pari pour 2022, refaire fonctionner l'usine pour transformer la canne sur l'île. Place maintenant au plan de modernisation de l'outil sur 5 ans. Il ne va pas sans le plan de relance de la production cannière. Objectif 130 000 tonnes d'ici 2027 pour le sucre, plus 20 000 tonnes pour les trois distilleries de l'île.
Josiane Champion de la première Guadeloupe, direction maintenant la Martinique avec un tout autre sujet. L'interpellation spectaculaire hier matin dans le quartier de Gaudissart, Fort-de-France. Du castor. Le castor, c'est le surnom donné à un individu impliqué dans plusieurs homicides. Guillaume Mougy est le directeur de la police nationale en Martinique.
Je pense que c'est une arrestation extrêmement importante dans le cadre d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction. Je ne pourrais pas parler de l'enquête, mais c'était un individu dangereux pour lequel la direction territoriale de la police nationale de la Martinique a mis les moyens. C'est une affaire de longue haleine, de plusieurs mois. Nous avons fait appel à l'antenne RAID afin d'interpeller cet individu. Cette opération a été couronnée de succès. Il n'y a pas eu de blessés, ni pour les policiers, ni pour l'individu. Et donc, nous avons gagné une bataille. Nous n'avons pas gagné la guerre, mais nous continuons à rester déterminés.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de la première. On se retrouve en effet demain pour le dernier rendez-vous de la semaine de notre rendez-vous d'Haïti des Amériques qui était réalisé aujourd'hui par Claude Battista. Vous le savez, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur RFI Pure Radio. Très bonne journée à tous à l'écoute de la Radio du Monde.
RFI, les voix du monde.
Trophée Énergie Antilles. Votez pour la révélation de l'année. Dupsy et Lewill. Bigasti.
Mien chata. Chebe moun en wap. Wap. Je l'ai vu, il m'a vu. On s'est vu en boîte de nuit. Il m'a dit t'es belle chérie. On se voit.
Calypso.
Meilleur.
Rio. rendez-vous sur energieantilles.com.
Hommage à Jacob Desvarieux. Samedi 30 juillet, Martinique la Première a rendu hommage à Jacob Desvarieux, cofondateur du groupe Cassave, décédé il y a un an. Pour continuer à rendre hommage d'une manière forte, originale et marquante et célébrer la mémoire de cet artiste irremplaçable, 21 artistes d'outre-mer et d'Afrique se sont réunis autour d'un projet unique. Chanter Jacob tous ensemble. Un medley magnifique que je vous invite à découvrir en exclusivité sur CUT 89,5 FM Toronto. Jacob Desvarieux, un artiste, un ami qu'on n'est pas prêt d'oublier.
Je me Grâce à votre fidélité en radio, Martinique Première progresse régulièrement depuis un an. Vous êtes près de 90 000 auditeurs à suivre régulièrement nos programmes en semaine. Merci de votre confiance.
Martinique Première, première à vos côtés.
Martinique Première.
Et oui, Ciné Franco, 25 ans, et ça se fête tout au long de l'année, en ligne ou en salle. Restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco. Allez sur le site de cinéfranco.com et découvrez la diversité des cultures francophones. Ciné Franco, le plus important festival international de films francophones à Toronto depuis 1997. Soyez-y. Bonne fête à Ciné Franco. Ciao, ciao, ciao.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Chouchou, beignet, le régal du palais.
Oh, ça suffit le monde, on remballe. Allez, on part en bateau pour la journée.
Mais bien sûr, et on peut prendre mon hélicoptère aussi si tu veux. Hein.
Sur clickandboat.com, réservez un bateau en quelques clics depuis votre mobile, même à la dernière minute. Bateau à moteur, voilier, catamaran, profitez d'un choix de plus de 30 000 bateaux sur clickandboat.com avec ou sans skipper.
Click and Boat.
Cliquez, réservez, naviguez. France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux. Avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur France24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Et il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Et oui, notre coup de cœur littéraire de l'été aujourd'hui est Exosquelette, Prix Trillium 2022, deuxième livre de poésie de Chloé La Duchesse, publié aux éditions Mémoire d'Encrier. Chloé La Duchesse, poète, romancière et éditrice chez Prise de Parole.
féministe éprise de mots, de musique, de boxe. Elle réside à Sudbury, un lieu inspirant pour cette Montréalaise d'origine. Le lieu est évoqué dans ses deux recueils de poésie. Elle s'est donné un nouveau défi, écrire un roman. L'œuvre, intitulée « L'incendiaire » de Sudbury, parue en mars 2022. Avant de la recevoir, écoutons « Exosquelette » dans les mots de Chloé la Duchesse.
Les poèmes de ce recueil ont été écrits sous la tutelle du don. Petit paradoxe. L'amour que je donne est le seul que je possède. Pour les pessimistes, les anxieuses, les météorologiques, trois clubs dont je fais partie, l'amour tous azimuts est un choix qui exige que je me positionne. J'envoie aux quatre coins du ciel des enchantements dont les destinataires se révèlent dans la lueur rousse des feux d'automne. La map monde s'agrandit, m'enveloppe. Voyez comme ces chemins sont lumineux.
Oui, bonjour.
Madame Chloé la Duchesse.
Oui, c'est moi.
Bonjour, Éric Kader de CUT-FM Toronto.
Ça va bien?
Ça va. Tout d'abord, au nom de toute l'équipe de la radio et des auditeurs, je vous présente toutes mes félicitations pour votre prix Trillium 2022. On en a beaucoup parlé ici à l'antenne. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous êtes née à Montréal, vous êtes poète, romancière et éditrice chez notre partenaire littéraire, la maison d'édition Prise de Parole, à Sudbury. Vous animez une émission de radio sur la poésie. Et enfin, vous êtes poète officiel de la ville de Sudbury. Un titre qui vous a causé une petite controverse, c'est ce qu'on a pu lire dans certains médias. Alors, Exosquelette, aux éditions Mémoire d'Encrier, et votre deuxième livre de poésie qui vous a valu le prix Trillium. Pour les auditeurs qui nous écoutent au Canada et dans le monde, exosquelette est un mot très étranger pour beaucoup. Pourquoi ce titre et qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire un livre autour de ce mot?
En fait, le mot est venu à la toute fin. J'essayais de comprendre qu'est-ce qui reliait tous ces poèmes, donc ils sont pour la plupart très personnels, et je me suis rendu compte que je suis une grande timide, en fait, et c'est vraiment par la poésie que j'arrive à dire les choses les plus intimes, les choses les plus profondes que je ressens, et donc la poésie devient un peu cet exosquelette, donc je me donne à voir et à comprendre à travers la poésie, et donc à travers cette manifestation extérieure, extérieur à moi, en fait, qu'une fois qu'il est couché sur le papier, n'est plus moi. Donc voilà, la poésie est mon exosquelette et c'est dans ce recueil-là que j'ai un peu fait le lien entre les deux.
Alors, pour situer un peu les gens qui sont toujours pas familiers avec ce mot, vous êtes d'accord que c'est pas un mot des communs des mortels? J'ai fait mes petites recherches et selon Wikipédia, exosquelette ou squelette externe, par opposition à l'endosquelette, est une caractéristique anatomique externe qui supporte et protège un animal. Ou encore, exosquelette signifie un appareil fixé sur le corps pour lui redonner sa mobilité. Et quand je lis votre livre, j'ai l'impression qu'il y a chez vous un côté un peu rebelle. On sent que vous vous battez avec ce corps à la recherche d'une certaine libération. Vous écrivez, et je cite, « Je m'embourbe à courir après un lapin encore plus pressé que moi d'arriver au bout du tunnel. » Vous écrivez aussi, « Au commencement, il y a la jalousie. Je veux que mon corps existe sans sexe, dans l'espace mouvement ample le respect. Je veux que l'idée de mon pouvoir suffise. » On dirait un journal d'une adolescente qui veut réinventer le monde à la recherche de sa place sur cette planète. Ma question, Chloé la Duchesse, avez-vous déjà rêvé d'être psychiatre, psychanalyste ou psychologue?
Comme je suis toujours en train de réinventer ma vie, je pense que j'ai voulu être toutes les choses. Médecine aussi, ingénieur. Mais voilà, je trouve qu'à travers la littérature, on a l'occasion justement de faire des recherches et de pousser et de tout essayer, ne serait-ce qu'à travers des personnages aussi. Je suis aussi romancière. Mais je ne sais pas si je dirais que c'est un journal adolescent. Quand on est adolescent, tout est toujours tellement intense, tellement direct, alors que j'ai vraiment pris le temps d'écrire ce livre-là et chaque mot m'a coûté beaucoup de cheveux. Je m'arrache les cheveux en écrivant, voilà, c'est dit. Et donc, ouais, Je sais pas si je dirais que c'est... je pense pas qu'il y avait une compréhension du monde comme ça quand j'étais adolescente, une compréhension du lien entre les femmes et le monde et des pressions qui vont d'un côté et de l'autre. Hein. Il y a beaucoup de pressions pour que qui contrôle le corps des femmes dans l'espace. Le poème que vous avez cité, c'est exactement ce qu'il dit. Moi, j'aimerais bien marcher sur la rue et ne pas être femme, être juste une personne. Mais il y a constamment des gens ou la disposition des lieux qui me rappellent que je suis pas la bienvenue dans cet espace-là. Mmh. Moi, j'aimerais qu'on me considère, justement, non pas comme à travers cette lorgnette-là, mais plutôt comme un être complet et entier et qui mérite autant le respect. Donc, je pense que quand on est ado, on prend tout très, très personnel, mais maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'il y a un système au complet qui dirige certaines personnes. Là, je parle des femmes, mais on peut aussi parler des minorités, de toutes les minorités, et qui font en sorte qui forcent nos parcours à la fois dans la vie, dans les lieux réels, dans la ville. Et c'est de ça que je veux parler dans ce recueil aussi.
En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir hein, en lisant ce livre. Et, très facile, livre de poche. C'est ma recommandation pour l'été 2022. Alors, vous êtes né à Montréal, ça a dû être peut-être un choc culturel, délire domicile à Sudbury, ville que je connais bien. Je sais que vous êtes très impliqué avec la toute nouvelle place des arts de Sudbury. Comment s'est passée votre intégration justement dans cette ville? Et décrivez-nous un peu, si vous pouvez, de ces nouveaux visages. Vous avez parlé de minorités. Justement, à Sudbury, on voit qu'il y a une augmentation hein, de la francophonie, change, évolue. Et donc, il y a de nouveaux visages dans cette francophonie du nord de l'Ontario. Expliquez-nous un petit peu comment ça a été votre intégration dans cette ville.
Déjà, j'ai la chance d'être arrivée dans un organisme, donc j'ai commencé par un stage chez Prise de Parole, qui est très, très impliqué dans la communauté, et dont mes collègues aussi étaient des gens connus et appréciés. Donc, c'est facile, une fois qu'on est à côté d'eux, de rencontrer des personnes intéressantes, des personnes impliquées. Donc, ça s'est assez bien passé. Ceci dit, quand on est adulte, se faire des amis, c'est toujours un peu compliqué. Les gens sont occupés, les gens ont des familles. Et quand on vient pas de la ville, on n'a pas sa famille avec soi. Donc, voilà. Mais j'ai aimé ça et j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y a un accès à la nature ici qui est incroyable. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir de la compagnie quand on est dans la forêt et puis qu'on respire cette odeur chaude d'aiguilles de pin. Il n'y a rien de plus merveilleux que cette odeur-là. Je suis choyée de pouvoir fréquenter la forêt à peu près tous les jours si j'en ai envie. Ceci dit, effectivement, le visage des communautés francophones change. Je sais pas si on change assez vite pour les accueillir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup... Encore récemment, je lisais une étude qui disait qu'il y a encore beaucoup de racisme, par exemple, pour trouver un emploi, pour trouver un logement. Et puis ça, c'est vrai. C'est vrai aussi dans nos manifestation culturelle, c'est-à-dire que on a eu un super spectacle par ici le talent au mois de juin qui mettait en vedette des artistes des communautés immigrantes. Mais outre ça, on ne voit pas de personnes noires, on ne voit pas de personnes immigrantes sur scène. C'est un problème auquel on doit s'attaquer, auquel on va s'attaquer, parce que voilà, on a envie d'avoir des amis comme adultes, on a envie d'avoir de ne pas se priver de ces talents-là. Mais on n'est pas encore tout à fait rendu là. Je pense qu'une personne issue des communautés culturelles pourrait vous répondre mieux que moi sur la question, mais il me semble qu'il reste du travail à faire.
Alors, comment avez-vous atterri à l'écriture?
Probablement par fascination pour la machine à écrire de ma mère, mais il y a aussi, en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime les livres. Avant d'aimer l'écriture, je suis une très grande lectrice. J'ai toujours lu beaucoup de livres. Je viens d'une famille où il y avait beaucoup de livres. On allait à la bibliothèque religieusement toutes les semaines.
Ah oui.
Donc, c'est logique, en fait, quand on voit tout cet univers qui se déploie, d'avoir envie d'entrer dans la ronde, puis d'y participer aussi, puis de faire partie de ce beau monde qui est celui de créer, d'écrire des histoires, des univers. Donc, l'écriture... est venu peut-être un peu tard, en tout cas l'écriture sérieuse, mais j'ai rencontré des gens comme moi, de mon âge, avec un parcours similaire, qui écrivaient et publiaient, et je me suis dit, voilà, les gens, c'est pas juste, les auteurs, c'est pas juste des gens fantasmés, ils existent pour vrai dans la vraie vie, et je pourrais en être une moi aussi, donc. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, je vais écrire mon livre à la retraite, mais pas tout ce qu'il faut pour écrire un livre, c'est d'écrire. T'sais, il faut commencer à écrire si on veut écrire un livre, puis c'est pas... Le temps est précieux, forcément, mais si on n'écrit pas, on n'écrit pas. T'sais.
Vous savez, en préparant cette émission, j'ai fait une petite recherche sur vous. Vous avez un parcours assez atypique et j'aime bien ça. Dans une vidéo d'ailleurs sur YouTube, le lien est sur notre site web, vous dites « Vous aimez bien espionner vos voisins de vos fenêtres ?» Vous dites, et je cite, « J'ai beaucoup écrit à partir du bureau qui était haut perché au deuxième étage d'une maison sur une colline. » Comme ça, vous aimez bien espionner vos voisins? Et c'est comme ça que vous vient l'inspiration, peut-être, pour écrire?
Et c'est sûr que mon roman qui se passe à Sudbury, L'incendiaire de Sudbury, qui est paru en mars, est plein d'anecdotes et de faits. Il y a beaucoup de personnages, donc l'observation fait partie de ma démarche. Mais reste qu'en général, je trouve qu'il y a un certain pouvoir à savoir qu'est-ce qui se passe autour de soi. Voilà, je ne suis pas aveugle à ce qui se passe autour de moi. Et comme cette position privilégiée-là, dans cette maison où j'habitais à l'époque, me donnait un bon aperçu sur une rue assez passante où il y avait toutes sortes de gens qui marchaient, qui faisaient du vélo, des enfants en poussette, des voitures qui vont trop vite. Bref, il y a toujours quelque chose à observer. Puis moi, j'aime bien savoir qu'est-ce que font les gens, pourquoi est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils s'en vont. Je suis une grande curieuse. Donc oui, mais j'ai aussi ma paire de jumelles qui est jamais trop loin, si besoin.
Alors, vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, mesdames, messieurs, et notre invitée aujourd'hui, Chloé Laduchesse, lauréate du prix Trillium 2022, pour son livre Exosquelette aux éditions Mémoire d'Encrier.com, une petite maison d'édition à Montréal qui célèbre ses 20 ans et nous avons eu le bonheur d'accueillir son fondateur, le visionnaire Rodney Saint-Éloi, lors d'une émission spéciale réalisée par RFI à Paris tout récemment. Alors, Chloé Laduchesse, vous écrivez dans plusieurs journaux, magazines littéraires, vous avez même écrit un roman intitulé L'incendiaire de Sudbury, paru en mars 2022, si je ne m'abuse. Et si je comprends bien, vous avez des amitiés littéraires de longue date avec la maison d'édition Mémoire d'Encrier, Furie, et votre premier recueil de poèmes publié chez Mémoire d'Encrier. Furie a été finaliste au prix littéraire Trillium en 2018. Pour donner un petit avant-goût aux auditeurs, je veux juste reprendre quelques lignes. Furie est une plongée dans un univers peuplé de créatures mythologiques féminines qui accompagnent la naissance d'une femme nouvelle. Initiation à soi, à l'autre et à cet art d'être femme, féministe et d'assumer son histoire à part entière. Entre fureur et cri, entre volcan et lac. C'est un petit bijou littéraire que je recommande aux auditrices et auditeurs. Et on vous présente sur le site de Mémoire d'Encrier comme féministe éprise de mots, de musique, de boxe. Donc vous faites de la boxe, c'est vrai?
J'ai fait de la boxe. Au moment où ce livre-là est paru, j'étais dans une... je voudrais pas dire une phase, j'aime encore beaucoup la boxe, mais malheureusement, avec la pandémie, les gyms ne sont plus tout à fait aussi sécuritaires.
Oui.
Il y a plus. Mais non, il y a quelque chose de très libérateur, puis j'en parle aussi dans Exosquelette, dans cette découverte de la boxe. Moi, j'ai étudié en musique classique toute ma jeunesse, et il y avait toujours cette idée de « je peux pas me faire mal, je peux pas me blesser les doigts, les poignets, c'est important pour jouer de la musique, je peux pas avoir un bras dans le plâtre. » Donc, à partir du moment où, adulte, j'ai découvert que mon corps pouvait faire toutes ces choses, pouvait être fort, pouvait être musclé, pouvait être en forme. J'ai jamais fait de sport avant, donc il y a eu une grande, grande libération qui est venue avec cette découverte de la boxe. Et aussi, c'est une très belle communauté. Les femmes de mon groupe étaient tellement accueillantes, tellement généreuses. On riait énormément. Et il y a une générosité dans cette idée de... dans cette réciprocité, hein, dans la boxe, il faut que l'autre ait envie de se battre avec nous, tu sais, pour qu'on puisse s'améliorer. Donc, il y a beaucoup de gratitude envers cet échange-là. Et donc, voilà, oui, j'aime beaucoup la boxe et j'aime de plus en plus toutes sortes de sports, mais ça a été pour moi un grand catalyseur de découvrir qui j'étais, qu'est-ce que mon corps pouvait faire.
Mais, alors justement, beaucoup de maisons d'édition et les journaux papier, comme vous le savez, souffrent suite aux proliférations de l'Internet. On prétend que les gens, et surtout les jeunes, ne lisent plus. Les salons du livre doivent se réinventer pour garder le cap. La distribution des œuvres littéraires de l'Ontario français sont encore très méconnues chez nos amis français, belges et africains. J'en fais la navette régulièrement en France et quand je parle à des écrivains franco-ontariens, les gens me regardent avec un air. Comment voyez-vous justement l'avenir des maisons d'édition et des écrivains francophones de l'Ontario rapidement?
Je pense qu'il y a beaucoup de dynamisme. Par exemple, l'Association des auteurs a beaucoup de projets qui aident à améliorer la visibilité. Je pense aussi qu'un livre peut être important sans qu'il soit un best-seller ou qu'il soit rendu voilà, sur les listes en Europe, on peut faire la différence dans la vie de quelqu'un, d'une seule personne, et puis ça aura valu le coup. T'sais. Moi, je vois que c'est très dynamique. On continue d'avoir un afflux de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices, qui soient issus de l'immigration ou qui sortent de l'université, ou les deux. Et donc, je pense pas qu'on est sur le bord de la faillite, et même les gens lisent en fait de plus en plus, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont fatigués et qu'ils n'ont pas envie de lire des livres, parce que les gens lisent sur Internet énormément, et la compétition, je pense que c'est plutôt entre les autres formes, par exemple, bon, la vidéo, c'est sûr, mais aussi parce qu'il se publie de plus en plus de livres, donc chaque livre a moins d'espace. Et puis quand on a une grosse capacité médiatique, comme par exemple Gallimard en France, ben forcément, les plus petites maisons d'édition qui ont des plus petits tirages, qui ont moins les moyens, ils vont moins percer en librairie. Mais ça, ce sont tous des détails de chiffres que je ne suis pas la meilleure personne pour commenter, mais il me semble que ça va plutôt bien et qu'on est encore capable d'inventer des univers, d'écrire des histoires, de créer des choses nouvelles. Donc, j'ai confiance qu'on va continuer de faire tout ça.
Mais je sais que Stéphane Cormier, notre ami de toujours, fait un effort extraordinaire, hein, des acrobaties pour faire connaître les écrivains canadiens, francophones, mais aussi franco-ontariens. Je sais qu'il a participé à quelques salons du livre en Europe dans le passé. Alors, d'ailleurs, ce partenariat avec nous qui dure depuis plusieurs années maintenant, en est la preuve que vous cherchez des créneaux, peut-être pas toujours officiels, pas toujours dans la force du temps, c'est-à-dire avec les réseaux ou les médias traditionnels.
Oui, ben, tu sais, mon collègue Stéphane, dont on travaille ensemble à prise de parole, effectivement, fait toutes sortes d'initiatives et ça passe par la vente de droits, par exemple, la vente de droits de traduction. On a pas vraiment de succès en France, mais on en a beaucoup, par exemple, en Allemagne, qui sont beaucoup plus ouverts à cette idée qu'il y ait d'autres francophonies, d'autres histoires. Et oui, on passe beaucoup par... On est une maison très, très ancrée dans une communauté qui est la communauté de Sudbury, qui est la communauté franco-ontarienne. On doit beaucoup à cette communauté-là. Elle nous soutient, elle nous nourrit. Et donc, nous aussi, on est beaucoup axés, comme vous le dites, sur des médias plus communautaires, plus locaux, des librairies, des bibliothèques, des écoles. On ne va pas nécessairement viser la plus grande revue au monde de littérature. On va plutôt aller vers les gens et vers les gens qui nous soutiennent depuis longtemps. Et ça va dans les deux sens, voilà.
Alors le temps passe vite, malheureusement. Vous êtes éditrice chez Prise de Parole. Vous animez une émission sur la poésie. Où pouvons-nous vous capter et quels sont vos projets de l'heure?
Et en fait, l'émission sur la poésie, Poésie Station, Poetry Station, est décédée, est morte de sa belle mort lorsque j'ai arrêté d'être poète officielle. Donc vous ne pouvez pas m'entendre, malheureusement.
Vous avez pas... Vous avez pas
acheté mes livres en librairie.
Vous n'avez pas des podcasts ou peut-être un projet de podcast?
Oh mon Dieu, il y a tellement de projets. Non, là, j'aimerais écrire des nouvelles, en fait. Donc, j'essaie d'écrire des nouvelles, mais comme vous le dites, le temps passe vite et je ne peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire.
Alors, justement, j'ai vu quelque part que vous avez un projet d'Expo-Zine. Qu'est-ce que c'est?
Oui, ben j'ai tenu 3 éditions d'Expo-Zine. La 4e a été annulée à cause de la pandémie. Des zines, c'est des petites publications faites à la main ou faites avec les moyens du bord, qui peuvent être quand même très belles et très professionnelles, mais qui ne passent pas par un éditeur et qui ne passent pas par un réseau traditionnel de distribution. Donc, c'est une espèce d'artisanat du livre. Et je trouve ça fascinant pour la liberté que ça donne, mais aussi parce que la communauté qui fait du zine est très accueillante et très curieuse, aime beaucoup échanger des trucs et des œuvres. Donc, j'avais organisé 3 foires, donc 3 années consécutives, où les gens de l'Ontario et du Québec venaient pour en vendre, pour en échanger, pour parler de leur zine. Et peut-être qu'un jour, après la pandémie, où est-ce que ce sera... Parce qu'il faut les toucher, hein. C'est le papier, c'est la beauté de la reliure. Ça se fait pas sur Internet. Moi, j'ai pas envie de faire ça sur Internet. Donc, j'aimerais bien continuer ce projet-là lorsque le contexte sera un peu plus propice à ces grandes embrassades.
En tout cas, tenez-nous au courant de vos projets. Chloé Laduchesse, poète, éditrice, romancière, poète officielle. Ben, vous êtes toujours poète officielle du Grand Sudbury ou c'est terminé?
Non, il y en a 2 qui ont passé après moi.
Ouais. Alors, lauréate du prix littéraire Trillium 2022. Cet entretien sera disponible si vous souhaitez la télécharger sur notre site popourichaud.com. Un grand merci, Chloé Laduchesse. J'espère vous recevoir dans nos studios un jour à Toronto, Hart House, à l'Université de Toronto. Bonne chance dans vos entreprises. Je vous souhaite un très bel été. Que la force soit avec vous.
Ben, merci. Merci beaucoup, Eric.
Au revoir.
Au revoir.
Un immense merci à Chloé la Duchesse, et oui, pour cet entretien à cœur ouvert. Merci pour votre franchise et authenticité. Chloé la Duchesse, éditrice chez Prise de Parole, romancière poétesse de Sudbury, dont le recueil Exosquelette a été finaliste pour le prix du gouverneur général en 2021, lauréat 2022 du prix littéraire Trillium de poésie française, et oui, Exosquelette, aux éditions Mémoire d'Encrier. Tous les détails et les liens de notre invité sur popourichaud.com. Un grand merci à Emmanuel Kerad de France Inter et RFI que nous allons rencontrer dans quelques jours. Merci à DJ Devera à Toronto, tous les techniciens de Hard House et oui, à l'Université de Toronto qui font monts et merveilles pour la mise en onde de nos émissions lors de mon absence. Merci du fond du cœur. Et je vous rappelle à nouveau le message de Roland Smith qui nous invite à une visite guidée bilingue de la Société d'Histoire de Toronto en deux parties. Donc aujourd'hui le 7 août et dimanche prochain 14 août. Rendez-vous donc ce dimanche si cela vous intéresse à 13h30. Nos maires, qui furent-ils? Toronto's mayors, who were they? Voguide, Frank Nicholson et Roland Smith. Tous les détails sur sht.ca. Ou encore, visitez notre site popourichaud.com. Et en dernière heure, rapidement, premier cours sur le profilage racial dans les universités du Québec. On nous prévient que ce cours est d'abord et avant tout un cours de droit destiné aux juristes. Ce n'est pas un cours militant, ce n'est pas un cours où les gens sont appelés à descendre dans la rue, le poing en l'air. Au Sénégal, le camp présidentiel revendique la victoire aux législatives. L'université Laurentienne, de nouveau dans les médias. Et oui, les départs à la retraite du recteur de l'université Laurentienne, Robert Haché, et de la vice-rectrice aux études, Marie-Josée Berger, suscitent de nombreuses réactions, autant dans la communauté qu'à Queen's Park. Et oui, ces appels à la démission du recteur étaient réclamés depuis plus d'un an par les anciens professeurs et la communauté. Une porte-parole du ministère des Collèges et Universités a pour sa part indiqué par courriel que le gouvernement va toujours assurer la présence des établissements postsecondaires durables et forts dans le nord de l'Ontario. On verra bien. Une ex-députée libérale de race noire de la région qui habite à quoi? La région de Whitby, en Ontario, dit avoir vécu de la discrimination par la sécurité parlementaire à Ottawa. Et oui, selon nos sources, ce n'est pas la première fois que le service de sécurité est interpellé pour profilage racial sur la colline parlementaire. Et le prochain Festival international du film de Toronto s'annonce grandiose cette année. Hillary Clinton et sa fille Chelsea présenteront leur série de commentaires Gutsy au Festival international du film de Toronto, un film qui traite la résilience des femmes. Le PDG du festival, Cameron Bailey, a déclaré qu'il trouvait inspirante la vision de ces deux femmes sur les questions de société et d'identité de genre. Gutsy au Festival international du film de Toronto du 8 au 18 septembre prochain. Et nous faisons des efforts pour vous offrir des billets, madame, monsieur, des billets surtout aux membres de la radio. Et dimanche prochain, Popourri Show souligne la fête de l'Acadie et j'espère recevoir Antonine Maillet, romancière et dramaturge acadienne. Ses œuvres les plus connues sont la pièce La Sanguine et le roman Pélagie la Charrette. Pour terminer, hommage à un grand musicien cofondateur du groupe Cassave. Il y a un an, Jacob Desvarieux disparaissait. Mutisme total chez nos principaux grands médias nationaux et internationaux. Pourquoi? Eh ouais, Popourri Show rend hommage à Jacob Desvarieux, survenu le 30 juillet 2021. C'est la chanson, la voix de Jacob Desvarieux, jouée lors de ses funérailles. Hommage à Jacob Desvarieux, cofondateur du groupe Cassave. Décédé le 31 juillet 2021. Ciao, ciao, ciao.